Oui, mémoire, vaste sujet. Et si nous parlions d'abord des excès, si nous faisions d'abord un petit tour dans l'imaginaire, curieuse fonction d'ailleurs que la mémoire, elle nous permet d'évoquer le passé, mais en le considérant comme passé. C'est du passé vécu au présent, mais que nous sommes capables de ne pas considérer comme de la vie présente. Et si nous le faisions, effectivement, nous vivrions dans un univers fantomatique, on appelle ça de l'ecmésie, c'est-à-dire que nous vivrions le présent comme s'il était passé. Et nous le voyons cela dans certaines maladies neurologiques sévères, comme la maladie d'Alzheimer. Mais si nous parlions alors des excès, des extrêmes, il y a deux extrêmes étonnants. Et si parfois nous n'avions pas trop de mémoire? Quel malheur ce serait. Je vous renvoie à Borges, qui est un magnifique essayiste sud-américain, et à une de ses nouvelles qui s'appelle Fiction. Et il décrit le cas d'un personnage qui s'appelle Funès, pas Louis, hein, Funès. Et Funès avait cette particularité qu'il ne pouvait rien oublier. Et Funès était un grand infirme, parce que tout à coup, il avait envie de s'arrêter, de se souvenir. Mais pour se souvenir d'un jour entier, il fallait une journée entière. Et que finalement, sa vie n'était plus suffisante. Et Funès a été engorgé par ses souvenirs. Et tellement engorgé qu'il en mourut un jour, écrasé. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1 000 ans, avait dit le poète. L'excès de souvenirs n'est pas compatible avec une vie adaptée. Notre mémoire est d'abord une trieuse, c'est une poubelle, a-t-on dit. Et oui, effectivement, sans cesse, nous devons trier. Heureusement que nous le savons. Et quand nous pensons au déficit de la mémoire, pensons d'abord à ces excès, à ces excès imaginaires. Mais quelle chance nous avons de ne pas avoir une mémoire absolue. Nous ne pourrions plus vivre. Et puis à l'autre bout, une mémoire qui serait totalement partie. Totalement partie. C'est ce que de grands romanciers ont décrit. Il y a eu des films, Le voyageur sans bagage, Dan Houle, par exemple. Un jour, on oublie tout. On oublie ce qu'on a été, on oublie ce qu'on a fait. On ne sait plus où on habite, on ne connaît rien de notre vie. Et dans ce désastre-là, que l'on rencontre très rarement, mais parfois en pathologie, on se rend compte effectivement combien précieuse est notre mémoire, combien indispensable elle est pour que nous puissions être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est quoi? Être nous-mêmes, c'est nous déclarer dans une identité narrative. Nous sommes ce que nous sommes parce que, disait Paul Ricoeur, nous pouvons nous raconter dans une histoire. Notre vie est une histoire, et aussi loin que remontent nos souvenirs, aussi loin remonte notre propre identité. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que sur toute cette vie qui nous a précédés, alors que nous avons changé, que nous ne sommes jamais le même, nous nous sentons pourtant la même personne. Et c'est la mémoire qui assure effectivement cette cohésion à l'existence, c'est elle qui en est la colonne vertébrale. Frapper la mémoire, c'est donc pouvoir éventuellement frapper un individu dans ce qu'il a de plus précieux, c'est d'être au monde ce qu'il est et de pouvoir le dire au monde. Mais la mémoire, est-ce la même chose de se souvenir d'un morceau de musique, de se souvenir de la conduite automobile, de se souvenir d'une histoire drôle, de se souvenir de qui a tué Henri IV, de se souvenir de la date de la dernière réunion des États généraux avant la révolution de 1789, de se souvenir de ce qu'on a mangé hier et de ce que vous mangerez tout à l'heure. On sent bien que la mémoire est multiple. Et qu'au fond, ce que les dernières années ont permis d'acquérir par les travaux scientifiques des disciplines de la santé, mais aussi de la psychologie, ce que les travaux scientifiques ont permis de nous faire connaître, c'est les différentes facettes de la mémoire. C'est déjà cheminer dans ce dédale de la mémoire pour bien réaliser que nous avons plusieurs mémoires et que si nous avons plusieurs mémoires, c'est qu'elle est supportée par des zones différentes du cerveau. Et qu'au fond, le travail qui est le nôtre dans une consultation mémoire, c'est en fonction de la plainte de mémoire d'essayer de faire des hypothèses sur deux grandes questions. Est-ce que le cerveau souffre ? Et quelle zone du cerveau souffre ? Et ensuite, quelle en est la cause ? Et vous voyez que quand on craint Alzheimer, on s'aperçoit que ça vient vraiment en bout de course. C'est au bout de la troisième question seulement. Mais auparavant, il y a, comme l'a laissé entendre M. Bérard, tout un champ d'exploration, de réflexion à mettre auparavant en œuvre. Mais en dehors de ces connaissances de la mémoire, ce qu'a permis notre époque moderne, et tout particulièrement les 15 dernières années, c'est nous donner à tous le droit de nous plaindre de notre mémoire. Parce que, effectivement, il y a 30 ans, la plainte de mémoire n'était pas prise en considération. On se plaignait autant, mais on considérait que c'était banal. Puis le vieillissement est banal. Et puis on perd sa mémoire, c'est normal. Et tout est normal. Et même, on parlait de sénescence. Bon, le destin de l'être humain était de perdre. Et ce que notre époque moderne a appris, c'est que ça ne peut plus être ça. Le destin de l'homme, ça ne peut pas être de perdre avec l'avancée en âge. Le vieillissement réussi, c'est un vieillissement qui est autre chose qu'une addition, qu'un énoncé, qu'un inventaire de pertes auquel on se résignerait. Et c'est pour cette raison, effectivement, que le mot plainte mnésique a surgi du vocabulaire et que des équipes se sont peu à peu spécialisées pour transposer les données scientifiques et les appliquer à la médecine. À la médecine, c'est-à-dire à entendre les plaintes, à essayer de les comprendre pour essayer de voir à quoi elles étaient dues et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Car il y a toujours quelque chose qui peut être fait. Alors, dans un premier temps, il nous faut réfléchir aux différentes mémoires. Quels sont les différents types de mémoires ? Nous n'avons pas une, mais plusieurs mémoires. Et c'est Véronique Bonneau et Anne Fradet, qui sont toutes les deux neuropsychologues, qui vont nous parler des mémoires. Pour que déjà nous comprenions une chose, c'est que c'est compliqué. Et si vous partez d'ici en sachant que c'est compliqué et que vous comprenez moins bien qu'avant, ce sera déjà un très grand progrès. C'est dangereux de croire qu'on comprend tout vite. Il vaut mieux croire qu'on n'a pas compris. C'est cela qui donne l'envie de connaître davantage.